Bonjour tout le monde.
Ah super, vous êtes en forme. Je suis content de vous voir ce matin, même si en effet je ne vois qu'une partie de votre visage, l'autre étant cachée par, par le masque. Ça fait quasiment 2 ans en fait qu'on porte ce masque. Mais content en tout cas d'être là et qu'on soit à nouveau tous réunis et qu'on ouvre la parole de Dieu ensemble. Si vous le souhaitez, il y aura beaucoup de textes qui vont être affichés ce matin, on peut vous donner une Bible. Ou simplement, vous pouvez suivre à l'écran les textes qui vont s'afficher. Et puis, merci à Samuel et à toute l'équipe pour ce temps de louange. Il y a beaucoup des paroles que je vais essayer de dire qui ont déjà été dites et chantées à travers ce chant. Et je remercie le Seigneur qui nous conduit dans cela. Alors, ce matin, nous poursuivons l'étude qui a été voulue par les anciens, le livre d'Exode. C'est le 2e livre de la Bible. Ce livre commence avec la fin de l'histoire de la vie d'un homme que Dieu a béni. Il s'appelle Jacob. Les descendants de Jacob, ses enfants et puis ses petits-enfants, vont se multiplier jusqu'à former un peuple nombreux, et ce peuple va être béni par Dieu. Mais pendant un petit temps, malheureusement, ils vont se faire esclaves en Égypte, où ils vont être sous l'oppression du Pharaon. Mais les chapitres 1 et 19 d'Exode qu'on a déjà vu nous racontent la manière dont Dieu va les libérer de cette emprise. Comment Dieu va les conduire. On a en tête peut-être ces 10 plaies que Dieu va abattre sur l'Égypte et la manière dont il va fléchir le cœur du Pharaon pour laisser partir son peuple. Et à partir de ce moment-là, Dieu va les conduire dans le désert jusqu'au pied du mont Sinaï où il va faire alliance avec eux. Et au passage, à partir du chapitre 19 jusqu'à la fin du livre d'Exode, le peuple ne bougera pas de là où il est. Ils seront toujours au pied du mont Sinaï en train de recevoir les instructions de Dieu. Et c'est d'ailleurs là qu'ils vont faire alliance avec Dieu. Dieu va s'engager auprès du peuple. Il va leur dire, moi, je serai votre Dieu et vous, vous serez mon peuple. Dieu fait alliance avec son peuple. Son peuple devient, le peuple d'Israël devient son peuple et lui, il devient leur Dieu. Et il va même plus loin, il va concrétiser cette alliance en venant habiter parmi eux. Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Et c'est de ça qu'on va aborder ce matin, c'est de ça qu'on va parler ce matin. Mais entre le chapitre 19 et les chapitres 25, il s'est passé quand même que Dieu donne finalement les termes de cette alliance à son peuple. Il leur donne sa loi et les applications concrètes qui vont avec, c'est ce qu'on a vu il y a à peu près 2 semaines, le message de Samuel, je vous le renvoie, il est disponible, il peut vous le mettre à disposition s'il le faut. Dieu fait alliance avec son peuple, il leur donne sa loi et ses applications concrètes. Ensuite, il va encore beaucoup plus loin, toujours sur cette montagne, il se laisse approcher par son peuple. Le peuple, pour la première fois, va venir à Dieu et sa présence va être visible de manière forte au milieu d'eux. Certains parmi le membre du peuple vont même voir une manifestation particulière de Dieu qui va être visible au milieu d'eux. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec le message de David, d'Exode 24. Je vous encourage à nouveau à lire ces textes à la maison. Et ce matin, donc, on va se tourner vers les chapitres 25 au chapitre 31 où on va voir Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple. Avant d'exposer ce que j'ai pensé, et je voudrais vraiment vous conduire à cette réflexion, il faut penser que le Dieu de l'univers, qui est créateur de toutes choses, Dieu qui est grand, qui est glorieux, qui même les cieux de cieux ne peut contenir, il est saint, il est parfait, et pourtant il choisit de venir habiter parmi nous, au milieu de son peuple. Nous qui sommes des êtres imparfaits, par en contradiction avec sa nature, mais Dieu vient habiter au milieu de nous. Comment cela peut être possible? Et c'est ce que je vous propose de voir ce matin à travers ces chapitres. On ne va pas tout lire ce matin, sinon on est là encore jusqu'à 16h. J'espère que vous avez apporté votre repas, votre gamelle. On va simplement les survoler ces textes, mais en tout cas, je vous encourage à les lire à la maison si ça n'a pas encore été le cas. Et comme ça, vous pourrez vous rendre compte que j'ai dit pas mal de bêtises et me corriger. Ce sera avec joie que je recevrai vos remarques. À mes yeux, les versets clés de toute cette section, il y a 7 chapitres, et les versets clés à mes yeux sont, Exode chapitre 25, verset 8, qui va s'afficher à l'écran, où c'est Dieu qui parle, il parle à Moïse, il s'adresse à Moïse des enfants d'Israël. Il leur dit, ils, donc les enfants d'Israël, me feront un sanctuaire, et selon la traduction, c'est le mot tabernacle qui est marqué. C'est déjà un mot que Samuel a lu tout à l'heure en Apocalypse 21, verset 3. Et Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et encore un peu plus loin, Exode 29, il réaffirme cette promesse, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël, je serai leur Dieu, ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, j'aime analyser ce que je lis. Et les phrases ou les mots qui reviennent le plus dans ce texte sont « j'habiterai au milieu d'eux », c'est redit dans le 2 verset, « et je suis l'Éternel, leur Dieu ». Dieu souhaite habiter au milieu de son peuple, il manifeste ce désir, il veut être au milieu de ce peuple avec qui il a fait alliance, avec qui il a choisi de devenir leur Dieu. Mais pour que cela se fasse, vous avez remarqué au verset 8 que le peuple est invité à construire un sanctuaire, un tabernacle. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une sorte de tente, une sorte de demeure, une maison en fait. Une maison qui devait être le symbole de la présence de Dieu, qui devait contenir la présence de Dieu. Et les détails de ce tabernacle nous sont donnés dans les chapitres 25, 26, 27 et 31. Les chapitres 28, 29 et 30, quant à eux, nous parlent des prêtres qui devaient se mettre au service de ce tabernacle. Et cela nous instruit d'ailleurs sur la manière dont on s'approche de Dieu quand on observe le comportement de ces prêtres. Enfin, à la fin du chapitre 31, Dieu redit le terme de son alliance. Gardez vraiment cela en tête, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Voilà l'alliance de Dieu. Et ce que je vous propose maintenant de faire, c'est d'observer trois remarques. Je vais survoler ces chapitres avec ces trois remarques suivantes qui vont s'afficher à l'écran. D'abord, dans un premier temps, on va observer le tabernacle, on va regarder le tabernacle, et dans un premier temps, je vous invite à voir que le tabernacle de Dieu est construit à partir des offrandes du peuple. Le tabernacle de Dieu est construit à partir des offrandes du peuple. Ensuite, on verra que c'est un tabernacle qui révèle le caractère intrinsèque, c'est-à-dire l'identité même de Dieu. Et enfin, il faudra noter que c'est un tabernacle aussi qui appelle à un meilleur tabernacle. Ça vous va? Enfin, je ne vous laisse pas trop le choix, c'est ce que j'ai préparé. Mais en tout cas, si vous êtes prêts, c'est parti. Une première remarque, des offrandes pour le tabernacle. Comme on a pu le lire au verset 8, comme on peut le voir à nouveau au verset 8, le peuple est invité par Dieu à construire un sanctuaire, donc un tabernacle. Et c'est un sanctuaire, une tente qui est censée être la demeure de Dieu, la maison de l'Éternel, le lieu où il établit sa présence au milieu de son peuple. Dans un instant, on verra à quoi ressemble ce tabernacle. J'ai essayé de le dessiner comme je pouvais avec les données du texte. Mais avant de regarder à quoi il ressemble, je vous invite à observer déjà avec quoi il est construit, ce tabernacle. Le chapitre 25 commence ainsi. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Le tabernacle de Dieu est construit ensuite après à partir de ces offrandes. Et en réfléchissant à cet extrait, ça part du verset 1 au verset 8, en y réfléchissant, je me suis dit, mais attends, on fait la même chose nous aussi tous les matins. Enfin, on ne construit pas de tabernacle chaque dimanche. Venez d'ailleurs faire des travaux. Je ne sais plus la date. Mais chaque matin, il y a quand même un panier qui passe et nous offrons aussi, et nous apportons nos offrandes à Dieu. En fait, à quoi servent les offrandes? Et quand je regardais le texte, j'ai trouvé quatre remarques que je vous propose de faire dans cette première grande partie qui nous parle des offrandes. La première remarque, c'est que l'offrande est un acte volontaire. L'offrande est un acte volontaire. Je vous relis l'intégralité des deux premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. L'offrande est un acte volontaire. Ce n'est pas une obligation, encore moins une contrainte. C'est simplement un choix personnel, un cœur motivé, un choix motivé par un cœur joyeux et reconnaissant vis-à-vis de ce que Dieu est et vis-à-vis de ce que Dieu a fait. Et dans la lettre de Paul aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit ceci. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'était un des versets qui est affiché au dos du feuillet que vous avez. L'apôtre Paul écrit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. L'offrande est un acte volontaire. Dieu aime celui qui donne avec joie. Deuxième remarque, l'offrande a un coût. C'est un acte volontaire, mais il a un coût. Regardez les versets 3 au verset 7. Voici ce que c'est toujours Dieu qui parle. Voici ce que vous recevrez d'eux, donc des enfants d'Israël en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, c'est-à-dire du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en croix, en cramoisi, du fin lin et des poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin. On n'est pas très sûr de la traduction, mais ça se rapproche en tout cas de ces éléments-là. Du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates, de l'huile pour l'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. On pourrait croire, quand on regarde ce verset, on pourrait penser à une sorte de contradiction entre ces versets 3 à 7 et les versets 1 et 2 qui les précèdent. Dieu invite son peuple à lui faire une offrande. Vous avez remarqué que chacun devait le faire librement, comme il a résolu dans son cœur. Mais pourtant, il ne devait pas apporter n'importe quoi. Dieu demande des matériaux, il demande de l'or, de l'argent, du bronze et une série de 13 matériaux. Tous ces objets étaient des objets, et encore aujourd'hui, sont des objets de valeur. Ils coûtent très cher. Et pensez un instant à la situation du peuple, ce que j'évoquais au début, c'était un peuple qui était esclave en Égypte. Ils n'avaient ni salaire ni patrimoine lorsqu'ils étaient en Égypte. Et ils sont sortis d'Égypte pour aller à la rencontre de Dieu, et là, Dieu leur demande des objets de valeur. Pourquoi ? Parce que l'offrande a un coût. Et cette vérité, elle est confirmée plus tard par le roi David, qui, des années après, quand il confesse son péché à Dieu, après avoir péché contre Dieu et qu'il lui présente une offrande pour cela, il dit en Chroniques 21-24, je vous invite à lire l'intégralité du texte, il est vraiment très bien. Et le roi David dit, « Je n'offrirai point à Dieu un holocauste, c'est-à-dire une offrande, qui ne me coûte rien. » Je n'offrirai point à Dieu une offrande qui ne me coûte rien. En d'autres termes, j'offrirai à Dieu une offrande qui me coûte. C'est marrant parce que, enfin c'est marrant, pas trop, mais quand je regarde ma vie, j'ai plutôt tendance à dire j'offrirai ce qui ne me coûte rien. Et là il dit, j'offrirai à Dieu ce qui me coûte, l'offrande à un coût. Troisième remarque, c'est la bonne nouvelle. Certes, l'offrande a un coût, mais c'est Dieu qui pourvoit. Il faut dire que le peuple d'Israël est le descendant d'Abraham. Et Abraham, c'est un vieil homme à qui Dieu avait fait la promesse des années avant qu'il deviendrait le père d'une grande nation. Abraham, c'est le père d'Isaac, à qui Dieu a refait cette promesse. Isaac, c'est le père de Jacob, à qui Dieu a également fait cette promesse. Et de ces trois personnes descendent le peuple d'Israël. Et voici ce que Dieu disait à Abraham au moment où il s'est révélé pour la première fois à lui. Genèse 15, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. Vous vous souvenez, ils sont devenus esclaves après. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront. Regardez la suite. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et lorsque des années plus tard, Dieu libère ce peuple de l'esclavage qu'ils étaient en Égypte, de l'esclavagisme qu'ils étaient en Égypte. Dieu accomplit cette promesse. On l'a lu un peu avant Exode 12 dans la série et dans les messages précédents. Dieu accomplit sa parole, Exode 12, verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, vases de l'or et des vêtements. L'Éternel, regardez bien, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Donc Dieu avait tout prévu. Dieu avait tout prévu. Celui qui pourvoit aux besoins de son peuple, les offrandes qu'il leur demande, celui qui pourvoit à ces offrandes. Et c'est important qu'on se rappelle ces choses, c'est important qu'on s'en souvienne. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Ce n'est pas notre employeur qui pourvoit à nos besoins, encore moins les aides sociales. Même si notre employeur ou les aides sociales nous versent un revenu ou un salaire tous les mois, ils sont simplement des canaux par lesquels Dieu nous bénit. C'est Dieu qui pourvoit. Tout vient de lui. Et c'est encore le roi David qui le dit un peu plus loin, en Chronique 29, car qui je suis et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et si nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Alors certes, l'offrande coûte cher, mais c'est Dieu qui pourvoit. C'est lui qui pourvoit nos besoins. Quatrième remarque sur les offrandes. L'offrande accomplit l'œuvre de Dieu. Verset 8, vous pouvez voir, il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Souvent, cette dernière phrase est répétée dans cet ensemble de chapitres. Vous ferez exactement d'après le modèle que je vais vous montrer. À ce moment-là du texte, Moïse est en haut du mont Sinaï en train de recevoir les instructions de Dieu sur le tabernacle qu'il doit construire à partir des offrandes du peuple. Plusieurs fois dans le chapitre, Dieu demande à Moïse de faire exactement d'après le modèle qu'il va lui montrer. Moïse ne devait pas improviser, il devait suivre à la lettre ce que Dieu lui disait. Il devait construire ce tabernacle. Le tabernacle est la tente de rencontre entre Dieu et son peuple. C'est là que Dieu a choisi d'établir sa présence. Alors Moïse devait se servir de ses offrandes pour construire cette tente, pour construire ce pont un peu comme un sas entre Dieu et son peuple, pour que Dieu vienne rencontrer, vienne au milieu de son peuple et que son peuple vienne à sa rencontre. Et en y réfléchissant, je me dis, ça doit être un peu la même chose pour nous. L'argent que nous récoltons à travers nos offrandes, ça ne doit pas simplement être traité ou géré avec rigueur, mais ça doit surtout être géré avec la vision de ce que Dieu veut. Et là, on n'est pas si loin de la mission de Dieu, par la mission que Dieu a confiée à Moïse, permettre à nos concitoyens de rencontrer Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Nos offrandes doivent accomplir l'œuvre de Dieu, soutenir les progrès de l'Évangile, développer des activités missionnaires, payer nos charges en tant qu'Église, organiser des activités pour que celles et ceux qui ne connaissent pas encore Dieu puissent le rencontrer. Nos offrandes doivent servir l'œuvre de Dieu. Et dans ce texte, les offrandes du peuple ont servi à construire le tabernacle. Le tabernacle est construit à partir des offrandes du peuple. C'était donc ma première remarque. Et maintenant, je vous invite à regarder à quoi ressemble ce tabernacle avec cette deuxième remarque. Des règles dans le tabernacle. En réalité, on verra que le tabernacle révèle l'identité de Dieu. J'ai essayé, les textes sont assez longs, mais j'ai essayé de de constituer un schéma avec à quoi pouvait ressembler ces tabernacles avec les données du texte. J'espère l'avoir bien fait. Donc si jamais vous lisez le texte, vous vous rendez compte que je l'ai loupé, n'hésitez pas à me corriger. Mais globalement, comme on peut le voir à travers ce schéma, le tabernacle était composé de trois parties. C'est ce qu'il y a en vert dans l'image. Une première partie, la grande partie, qui était le parvis, un grand sas, on verra tout à l'heure ce que c'est, les éléments qu'il contient. Ensuite, à l'intérieur de ce parvis, il y avait une tente qui était divisée en deux, où on trouvait un lieu saint avec trois objets, et puis un peu à côté, un lieu très saint. Et il faut savoir que les noms, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, sont dictés par Dieu lui-même. Le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par un voile, et il y avait différentes règles dans chaque partie de ce tabernacle. Et vous imaginez, plus on s'approchait du lieu très saint, plus les règles étaient plus importantes, étaient plus strictes. Mais toutes ces règles avaient le même message. Et ce message révélait le caractère même de Dieu. Et ce que je vous propose de voir maintenant, en survolant rapidement les chapitres 20, 25 à partir du verset 10 jusqu'au chapitre 31. Alors, pour la construction du tabernacle, Dieu demande à Moïse de commencer par construire une arche, comme vous pouvez le voir avec le verset 10. C'est une chose étonnante d'ailleurs, quand vous construisez une maison, enfin, je ne sais pas si tout le monde l'a déjà fait, mais on a tous au moins vu un bâtiment qui se fait construire, ou sinon vous avez peut-être déjà monté une tente Décathlon. Enfin, moi je dis ça, je l'ai jamais fait. Mais qu'est-ce qui se passe quand on construit une maison? Quelle est la première des choses qu'on commence par faire? Les fondations. On pose le fondement. Puis après, il y a les murs qui montent. Il n'y a pas besoin d'être aussi doué qu'Agostinho pour le savoir. On pose d'abord les fondements. Mais ce qui est étonnant dans ce texte est que les murs et le fondement viennent après. La première chose que Dieu demande de construire est un meuble. C'est assez étrange quand même. Regardez le verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2,5 coudées, sa largeur sera d'une coudée et demie et sa hauteur sera d'une coudée et demie. Dieu demande d'abord un meuble. Et d'ailleurs, si vous regardez le texte, l'ensemble du tabernacle, tout sera construit autour de ce meuble. Il y aura des rideaux, des couvertures et des voiles pour protéger l'accès à ce meuble. Cette arche de bois d'acacia sera entourée d'or en dedans comme en dehors. Et sur elle, il y avait quatre anneaux qui étaient également faits en or. Sur ces anneaux étaient fixées des barres d'acacia qui elles aussi étaient recouvertes d'or. Et ces barres ne devaient surtout pas être retirées. En fait, elles permettaient au peuple de porter cette arche qui est en or sans jamais s'en approcher ni risquer de le toucher. Et sur cette arche, enfin, dans cette arche, Moïse devait placer le témoignage de Dieu, verset 16, qui va s'afficher. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. En fait, c'est l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Vous vous souvenez de cette alliance? Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'arche de l'alliance. Cette alliance était inscrite dans les tablettes de loi que Dieu allait donner à Moïse. Et c'était donc ces tables de loi que Moïse devait placer dans l'arche de l'Alliance. Et enfin, sur l'arche de l'Alliance se trouvait un couvercle qui a un nom bizarre, un propitiatoire, ou selon la traduction expiatoire. On verra tout à l'heure son utilité. Ce couvercle était également en or, et au-dessus de ce couvercle, il y avait deux anges, qui eux aussi étaient fabriqués d'or. En fait, il y avait de l'or, de l'or, de l'or partout. Il y avait de l'or. Et quand on regarde de plus près, on comprend pourquoi en fait. Et d'ailleurs, l'arche de l'Alliance, si on revient dans le schéma d'avant, il est placé dans le lieu très saint. Et quand on regarde de plus près, on comprend le symbole, que le symbole est important. En fait, dans la Bible, l'or est symbole de pureté. En réalité, l'arche de l'Alliance était pure. Et c'est pour ça qu'elle était dans le lieu très saint. Elle contenait la loi de Dieu, loi qui ne servait pas qu'à montrer au peuple comment se conduire en tant que peuple de Dieu, mais surtout c'était la loi qui dévoilait d'un côté un Dieu qui est saint, parfait, et de l'autre côté des hommes qui sont pécheurs. En fait, la loi était un miroir qui montrait au peuple ses défaillances, ses fautes, ses actions mauvaises, bref, ses péchés. Et en tant que pécheurs, ils n'avaient pas accès à Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un détail aussi important nous est donné dans le texte. Il y avait deux chérubins qui étaient placés au-dessus de l'arche de l'Alliance. En fait, les chérubins, quand on lit la Bible, ce sont les anges qui sont autour du trône des dieux. 1 Samuel 4, 4, je ne les ai pas affichés. 1 Samuel 4, 4, ce sont les anges qui sont autour du trône de Dieu. Ésaïe 37, 16, ce sont les anges qui portent le trône de Dieu. Et Genèse 3, 24, ce sont les anges qui protègent de l'accès à Dieu. Parce que les hommes sont des êtres pécheurs et que Dieu est saint. En réalité, l'arche de l'Alliance était le symbole de la présence du Dieu saint, mais les pécheurs ne pouvaient pas se tenir en présence du Dieu saint. C'est pour ça qu'il y avait des règles dans cette partie. Mais on verra que malgré tout, Dieu admettait les pécheurs en sa présence. On le verra tout à l'heure. Continuons à explorer le texte. Le deuxième objet ou le deuxième élément que Dieu demande, c'est aussi un meuble, Cette fois-ci, c'est une table. Exode 25, verset 23, tu feras une table de bois d'acacia. Et ensuite, il y a tous les détails qui sont donnés. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous lisez l'ensemble de ces chapitres, le nombre de détails, à quel point c'était précis, c'est impressionnant. Et si cette table était également recouverte d'or, comme pour l'Arche de l'Alliance, cette fois-ci, il était permis de la toucher. Et comme vous pourrez voir aussi dans le schéma tout à l'heure, on n'est plus dans le lieu très saint, mais on est dans le lieu saint. Les règles sont un peu moins strictes. Cette table est décrite ensuite par ses ustensiles et ses couverts, mais l'accent n'est pas mis sur ces éléments. C'est plutôt orienté vers l'usage de cette table. En fait, toutes les semaines, Moïse et les prêtres devaient y mettre ce qu'on appelle les pains de proposition. Qu'est-ce que c'est ? C'était 12 pains, un pour représenter chaque tribu, il y en avait 12. Ces pains étaient le témoignage de la provision même de Dieu. Le peuple devait se souvenir que Dieu était celui qui prenait soin d'eux, qui pourvoyait à leurs besoins. Mais bien plus, ces pains rappelaient au peuple que Dieu pourvoyait à leurs besoins le plus important. Et de quoi avaient-ils réellement besoin ? Ils avaient besoin de Dieu. Ils avaient besoin de l'accès à Dieu. Ils avaient besoin d'entendre Dieu. Des années plus tard, Moïse explique, Deutéronome chapitre 8, Moïse s'adresse au peuple, il leur dit ainsi, « Il t'a humilié, c'est Dieu. Il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que même tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Ces pains étaient là pour rappeler au peuple que Dieu pourvoyait à leur besoin le plus important, c'est-à-dire par sa présence au milieu d'eux, il pourvoyait à tout. Et dans le lieu saint, il y avait également un chandelier qui était fait en or. Sa forme, c'est indiqué dans le verset 31, sa forme évoquait un arbre avec des branches et des fruits. Cette lampe était placée dessus de manière à éclairer la pièce. En réalité, le tabernacle était sombre. Sa seule source de lumière venait de ce chandelier d'or. Enfin, le dernier élément qui composait le lieu saint était un autel de parfums. Tu feras un autel pour brûler les parfums. Tu le feras avec du bois d'acacia. Cet autel était également recouvert d'or et les prêtres devaient brûler constamment des parfums comme une offrande devant Dieu pour que Dieu soit agréable à son peuple. En fait, la tente qui est composée du lieu très saint et du lieu saint, en réalité, était un lieu pur. Et dans le chapitre 26, il est question des couvertures, des draps, des rideaux et des voiles. On ne va pas tout lire, on ne va même pas les lire, je vais juste les survoler. Mais en fait, je veux simplement que vous représentiez qu'il y avait des cloisons. On se servait de ces rideaux pour faire des protections, des cloisons. Et qui permettait de protéger l'accès à ces lieux particuliers, le lieu très saint et aussi le lieu saint. Et n'importe qui ne pouvait pas accéder sous cette tente. Et ceux qui ne respectaient pas cette règle étaient tout de suite mis à mort. En fait, parce que Dieu est saint et que l'homme est pécheur, les pécheurs ne peuvent pas se tenir en présence du Dieu saint. Puis au chapitre 27, il est à nouveau question d'un meuble. Tu feras l'autel de bois d'acacia et comme les autres meubles, cet autel est aussi fait avec du bois d'acacia. Mais par contre, il n'est pas cette fois-ci couvert d'or, il est couvert d'airain, de bronze. Et d'ailleurs, nous ne sommes plus à l'intérieur de la tente, on n'est plus dans le lieu très saint ni dans le lieu saint. Nous sommes dans le parvis et le peuple pouvait accéder au parvis. Dans ce lieu se trouvait aussi une cuve, verset 18. Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain. Airain, c'est du bronze, pour les ablutions. En fait, elle permettait aux prêtres de se laver les mains et les pieds, symbole de purification, avant de commencer leur service dans le tabernacle. Là aussi, le non-respect de cette règle entraînait la mort. Parce que le pécheur ne pouvait pas se tenir en état de pécheur devant Dieu. En présence du Dieu saint. Enfin, le peuple était rassemblé tout autour de ces tabernacles cachés par ces rideaux et ces couvertures. J'ai trouvé cette image, l'image qui va arriver sur Internet, je trouve que ça représente assez bien comment était ce tabernacle et comment était organisé. Donc là, vous avez le parvis et ensuite une tente dans laquelle il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Il y a tellement de détails, je vais m'arrêter là, mais simplement maintenant, rappelons-nous, quel était le but du tabernacle? C'était un lieu qui devait offrir au peuple la possibilité de rencontrer Dieu. Dieu devait habiter au milieu de son peuple. Et maintenant, mettez-vous à la place d'un membre du peuple. Que voyez-vous de Dieu? En fait, on a l'impression de ne pas voir grand-chose de Dieu. On dirait que Dieu a établi sa présence réellement au milieu d'eux, mais il a mis un panneau à l'entrée, interdiction d'entrée au risque de mourir. On a l'impression que le peuple qui ne pouvait pas accéder à ce lieu saint ne voyait pas grand-chose de Dieu. Mais en fait, si, il voyait quand même quelque chose de Dieu. Par-dessus le rideau, on pouvait apercevoir une nuée qui descendait du ciel au-dessus du tabernacle. Cette même nuée qui les avait conduits alors qu'ils quittaient l'Égypte, qui était le symbole de la présence même de Dieu. Ils savaient que Dieu était présent et que Dieu était là. Dieu était bien présent au milieu de son peuple et sa présence était visible. Ensuite, il était permis au peuple, aux membres du peuple de rentrer dans le parvis. Et quand il y rentrait, il se retrouvait là, face à l'autel des holocaustes, l'autel des offrandes. On y entrait avec un animal et on en ressortait seul, car l'animal avait été offert en sacrifice. Et cela disait quelque chose de très important et de symbolique. Pendant des années, cela a dit quelque chose d'important. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans sacrifice. On ne peut pas venir à Dieu sans sacrifice. Et c'est d'ailleurs le message quasiment de ce tabernacle. Et l'auteur du livre des Hébreux le reprend à son compte, Hébreux 9, s'il n'y a pas de sang versé, c'est-à-dire pas de sacrifice. S'il n'y a pas de sang versé, je ne l'ai pas affiché, pardon, excuse-moi. Je l'ai affiché, mais un peu plus loin. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas, c'est-à-dire pas de sacrifice, il n'y a pas d'accès à Dieu et donc pas de pardon de péché. On ne peut pas entrer ou venir en présence de Dieu sans sacrifice. Et les chapitres 28, 29 et 30 après nous parlent des prêtres qui, eux, malgré tout, pouvaient accéder à ces lieux saints. Mais quand ils y rentraient, ils y allaient pour faire des offrandes à Dieu, des sacrifices pour que Dieu devienne favorable à son peuple. Et il y avait même, une fois par an, un grand prêtre qu'on appelait le souverain sacrificateur qui, lui, pouvait pénétrer jusque dans le lieu très saint pour aller à la rencontre de Dieu. Et ce jour-là, c'était le jour du grand pardon. C'est encore une fête qui s'est faite aujourd'hui. Je crois que c'est les Yom Kippour. Ce prêtre devait porter des vêtements sanctifiés. Il avait sur lui... Ce prêtre devait porter des vêtements sanctifiés alors qu'il s'approchait de Dieu. Il avait sur lui une éphode, un pectoral, avec deux pierres sur lesquelles était indiqué le nom des 12 tribus du peuple. En fait, c'était le représentant du peuple devant Dieu. Et quand il rentrait, il prenait deux objets qu'on appelle l'Urim ou le Toumim. En fait, c'est deux éléments qui servaient de jugement en présence de Dieu. Il s'approchait ainsi de Dieu. Et sur sa tête, il y avait une couronne sur laquelle était marquée « Sainteté à l'Éternel ». Il confessait que Dieu était saint alors qu'il venait en sa présence. Il entrait dans ce lieu très saint avec du sang d'un animal offert en sacrifice. Et il répandait ce sang sur ce couvercle qui avait pour nom propitiatoire ou expiatoire. Et il implorait la clémence de Dieu. En fait, c'est intéressant, le terme qui donne propitiatoire ou expiatoire, c'est le même mot, mais qui insiste sur deux aspects de Dieu. L'expiation, qu'est-ce que c'est? C'est l'acte, en fait, par lequel Dieu, de manière juste, satisfait sa propre colère contre le péché. Et il le fait au travers d'un sacrifice. Sans sacrifice, sa colère ne peut pas être apaisée. Et la propitiation, qui est l'autre partie, l'autre partie de la pièce, c'est l'acte par lequel Dieu devient favorable à son peuple et l'accueille en sa présence. Et il le fait aussi par un sacrifice. En fait, il fallait un sacrifice pour que Dieu redevienne favorable à son peuple. La seule possibilité pour le peuple d'obtenir la grâce de Dieu, c'était par des sacrifices. Il fallait que le sang coule et il fallait que du sang coule. Et encore aujourd'hui, la seule possibilité d'accéder à Dieu, c'est par un sacrifice. Il faut que du sang coule. Ne vous arrêtez pas sur cette dernière parole. Il y aura une bonne nouvelle quand même après. En réalité, le tabernacle qui nous est présenté, qui est présenté dans ces chapitres 25, 26, 27 jusqu'à 31, nous présente un Dieu qui est saint et où les pécheurs ne peuvent pas se tenir en sa présence. Un Dieu saint qui ne peut satisfaire sa colère contre nos actes mauvais, nos péchés, que par un sacrifice parfait. Sans sacrifice, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Et cela nous conduit à ma troisième et dernière remarque, un tabernacle meilleur. En fait, quand Samuel m'a donné le texte, je me suis dit, chouette, je vais pouvoir le parcourir. Et quand j'ai commencé à l'étudier, et plus le plan se dessinait dans ma tête, plus je me rendais compte qu'en fait, c'était dur. Il était impossible d'accéder à Dieu sans sacrifice, et c'était dur. La barrière qui nous sépare de Dieu est trop importante pour nous permettre de nous approcher librement de lui. Même le tabernacle que le peuple avait construit n'était pas tout à fait parfait. En fait, il fallait répéter des sacrifices jour après jour, mois après mois, année après année, pour que Dieu soit favorable à son peuple et que sa colère s'apaise contre le mal. Il fallait répéter des sacrifices pour que Dieu redevienne propice à son peuple. Il fallait sans cesse brûler des parfums pour qu'une offrande agréable monte jusqu'à Dieu et que Dieu agrée son peuple. En fait, ce tabernacle était bien trop limité pour que Dieu soit pleinement favorable à son peuple. Il fallait donc un tabernacle meilleur, un tabernacle où les sacrifices ne seraient pas offerts tout le temps pour couvrir les fautes de seuls et ceux qui s'approchent de Dieu. Un tabernacle où une offrande plus agréable montrer une fois pour toutes à Dieu, sans défaut ni tâche, et dont le parfum lui serait éternellement agréable. Il faut un tabernacle où le sang répandu une fois pour toutes suffirait pour l'expiation et la propitiation des péchés. Il faut un tabernacle où le grand prêtre ne craint pas de s'approcher de Dieu, où le souverain sacrificateur se tiendrait continuellement en présence de Dieu, et pas une fois par an, mais continuellement en présence de Dieu, pour défendre la cause de son peuple. Il faut un tabernacle où les pains qui rassasient combleraient tous les besoins du peuple, où la lumière qui éclaire illuminerait tous les ténèbres du peuple. Il faut un tabernacle où l'accès à Dieu serait ouvert à tous. Un tabernacle où rien ne nous empêche de voir Dieu. Alors voici la bonne nouvelle et je vous propose de la garder. S'il y a quelque chose que vous pouvez garder, prendre avec vous ce matin et partir avec, en dépit de tout ce que j'ai pu dire, c'est que Jésus-Christ est ce tabernacle. Jésus-Christ est ce tabernacle. J'ai été étonné en lisant le chapitre 1 de l'apôtre Jean. Au commencement était la parole. C'est l'apôtre Jean qui écrit et là il parle de Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et un peu plus loin il dit, et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Littéralement le mot qui est utilisé dans ce texte, c'est skeno, elle a tabernaclé parmi nous. Jésus est venu comme le meilleur tabernacle parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire et sa grâce, pleine de vérité, une gloire comme une gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ est le meilleur tabernacle. Et grâce à lui, aujourd'hui, Dieu habite en nous. Jésus-Christ vit en nous par son esprit. Quelle bonne nouvelle! Il est ce meilleur tabernacle. Jésus est le tabernacle qui nous permet de venir à Dieu sans crainte. Il est le sacrifice parfait, l'offrande agréable, le parfum de bonne odeur, le pain qui donne la vie, la lumière qui éclaire à jamais nos ténèbres. Il a versé son propre sang, il s'est lui-même offert en sacrifice. Et grâce à lui, il n'y a plus de sacrifice à répéter. Il n'y a plus d'autre sacrifice à faire. Sa mort et sa résurrection pardonnent à jamais nos fautes. Sa mort et sa résurrection nous donnent libre accès pour l'éternité à Dieu. Et nous pouvons venir à Dieu sans craindre. Il est le sacrificateur par excellence. Il se tient devant Dieu pour défendre la cause de son peuple, notre cause. Jésus-Christ est le meilleur tabernacle. Amen. Je propose ce texte d'Hébreux 9 qui le dit si bien. Et c'est avec ça aussi que je vais peut-être m'arrêter. Mais Christ, je crois que c'est un des textes qu'on va étudier bientôt, prochainement, et vous n'avez pas envie de louper les prochains messages qui arrivent. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés, c'est-à-dire les pécheurs, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Jésus-Christ est le tabernacle parfait. Et d'ailleurs, il y a des symboles qui sont vraiment importants. C'est que tout à l'heure, je disais, le lieu très saint et le lieu saint étaient séparés par des voiles. Et à la croix, on sait que Christ a brisé ce qui nous empêchait de nous approcher de Dieu. Quelle bonne nouvelle! La bonne nouvelle est que nous pouvons maintenant venir à Dieu sans sacrifice. Et la preuve, quand on se réunit ce matin, il n'y a pas d'animaux. Le sacrifice de Christ suffit. Il est parfait. Il est excellent. Il est plus excellent. Jésus-Christ est le tabernacle parfait. Alors, je vous propose trois choses pour vivre peut-être ce message ou ce commentaire que j'ai essayé de faire à propos de ce texte. La première remarque qui va être affichée aussi. Offrons sans cesse à Dieu notre offrande par Jésus-Christ. En fait, l'offrande est un cœur reconnaissant, joyeux du salut que Dieu a apporté en Jésus-Christ. Peut-être effectivement, il s'agira de mettre de l'argent dans ce panier ou chanter les louanges quand on se réunit. Peut-être qu'il s'agira de prendre le temps les uns pour les autres, accueillir les uns et les autres dans sa maison. Peut-être qu'il faudra participer à une activité dans l'église. Mais faisons-le avec joie, en exprimant notre reconnaissance pour le salut offert par Dieu en Jésus-Christ. Deuxième chose, peut-être que vous êtes en réflexion, c'est aussi l'occasion de réfléchir à propos du salut qui est offert. Le salut est le seul moyen qui permet d'accéder à Dieu. Il est gratuit, sans autre condition que de croire que Jésus est le seul moyen par lequel on peut aujourd'hui s'approcher de Dieu. Et si vous êtes en réflexion, voilà l'offre de Dieu. Croyez que Jésus-Christ est votre sauveur et apprenez à le connaître. Et la Bible nous révèle qui est Jésus-Christ. Et enfin, le texte que nous avons lu tout à l'heure d'Hébreux 9 se termine ainsi. Il a purifié notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant. Dernière remarque, c'est que si vous croyez en Dieu, alors mettez-vous à son service. Proclamez à celles et ceux qui ne le connaissent pas encore qu'il est possible aujourd'hui de s'approcher de Dieu et d'obtenir la vie éternelle par Jésus-Christ. Dieu demeure au milieu de nous par Jésus-Christ, au travers de son Esprit. Quelle bonne nouvelle. Amen. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants, mais vraiment reconnaissants pour ta grâce, pour ton pardon, pour ce salut que tu nous accordes en Jésus-Christ. Alors que nous étions loin de toi, alors que nous n'étions même pas ton peuple, tu as fait alliance avec nous. Tu es devenu notre Dieu et nous voilà devenus ton peuple. Tu t'es approché encore plus, Seigneur, vers nous en la personne de Jésus-Christ et tu as payé une fois pour toutes pour nos péchés, pour nos fautes. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce. Et ce matin, on veut être reconnaissant, Seigneur, t'exprimer en tant qu'assemblée notre reconnaissance pour cela. Et en même temps, Seigneur, te prier de nous fortifier, de nous permettre d'annoncer ce message à ceux qui nous entourent, à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'il est possible aujourd'hui de jouir de la vie éternelle que tu donnes, gratuitement. Seigneur, fortifie nos cœurs et rappelle encore en nous ces vérités, que tu es là près de nous, que tu vis en nous, par ton esprit. Et je te prie de nous accompagner aussi toute la semaine. De toute façon, tu es partout. Tu es avec nous et tu veilles sur nous. Je te remercie pour cela. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.